Nous sommes en compagnie pour l'heure de Bernard Joliot, qui est chargé de cours de langue et de civilisation russe à l'Université catholique de Lille. Et nous abordons aujourd'hui la délation de masse érigée en système pendant la période soviétique, le KGB et son successeur, le FSB. Bon, c'est un vaste programme, mais bon, on va essayer de cerner un petit peu la question. Alors Bernard Joliot, on pourrait finalement la délation, il y a une longue histoire en Russie sur ce mot, et moi je me poser la question si on pouvait pas faire remonter cette pratique jusqu'au XVIe siècle.
La délation pose un problème particulier, c'est que le mot n'existe pas d'abord en russe.
Ah, ça commence bien.
Ce qui est quand même un des premiers paradoxes, c'est que le mot n'a jamais existé. Et que c'est bien une définition, finalement, vue a posteriori. Il existe depuis le Moyen-Âge, sans doute russe, une habitude qui était celle d'adresser des rapports de situation, en principe au prince et principalement au tsar, qui chargeait ses services éventuellement d'analyser, de donner suite à ces remontées. Curieusement, alors que dans le programme du Théâtre du Nord, cette année, la rentrée, on va donner les âmes mortes, on verra qu'au XIXe siècle, c'est souvent un des principaux rapports qui est fait de dénoncer ceux qui ne font pas part des morts qu'ils ont accumulées dans leurs biens. Et donc le théâtre même de Gogol est imprégné finalement de ce rapport. Ce qui est intéressant, c'est que le mot n'existant pas, dénonciation n'existe pas non plus, délation n'existe pas, et c'est le mot d'annonce qui est listé de rapports portés à la connaissance d'eux, qui s'impose et qui traite donc historiquement d'une situation très particulière et très classique dans un système non démocratique, c'est-à-dire que la seule référence auquel on puisse faire confiance, celle auquel on puisse faire appel, celle qui est capable d'inverser les jugements, c'est le pouvoir suprême, pouvoir quasi divin, tels que les tsars se présentent et sont reçus pour une grande part dans la population. Voilà donc le premier élément, je crois qu'il est important de le comprendre, parce que, alors que l'Union soviétique et son histoire postérieure va donner l'idée d'une délation comme un système organisé, étendu à l'ensemble de la nation, on part donc d'une situation assez curieuse. Il y a un héritage. Celle que si on délate, si on fait de la délation, si on dénonce en direction de Staline, et les lettres que je donnerai tout à l'heure le montrent d'ailleurs très bien, que donc il y a un pouvoir suprême capable de rétablir les choses. Et évidemment, avec l'histoire russe, avec l'amplification finalement du système de répression, massacre de masse, délation de masse, il y a beaucoup de masse qui se met en place, et c'est un système qui va prendre sa place tout à coup et arriver à une extension tout à fait importante. On peut dire qu'elle, sur l'histoire russe contemporaine, elle trouve sa source très rapidement dès 1921, quand il faut éliminer les adversaires du système, puis ensuite quand il faut éliminer les compagnons du système, puis ensuite quand il faut éliminer les membres même du système. Et évidemment, c'est, je peux dire, son stade suprême mis en place par Staline, ce sera 1928-1929. Et curieusement, 1932, alors que la délation va continuer et va connaître une ampleur, Staline va s'y désintéresser. Et c'est sur ces questions-là, pourquoi ce désintéressement? Pourquoi ce système continue au-delà même de l'exploitation qui en est faite, qu'on peut peut-être revenir dans les minutes qui viennent.
Ben justement, j'allais vous poser la question. Par contre, j'aurais aimé que vous fassiez, enfin que vous me disiez si vous faites une différence entre dénonciation et délation.
Pour les Russes, la question n'existe pas, parce que le seul mot qui existe, c'est danos. Et pour parler de délation, il faut rajouter un adjectif devant, c'est-à-dire rapport fallacieux. Rapport,
ah, mais c'est ce petit mot qui est
donc
capital.
Il faut rajouter un adjectif, et c'est l'adjectif qui va finalement le rapprocher du sens commun que nous avons. Seulement, la délation, nous la percevons à travers un prisme qui est différent. Pour les Français, c'est le prisme de la guerre. Si environ au total 10 000 dénonciations, c'est à peu près le chiffre cité par Laurent Joly, qui travaille au mémorial de Caen. Pour le système le plus perfectionné dans l'esprit des Occidentaux, et en tout cas traité un certain nombre de films récents, c'est le système de l'Allemagne de l'Est, où la Stasi arrive à mettre en fiche la population et à cadrer un ensemble de choses, même si dans la réalité, on sait que les choses étaient beaucoup plus imparfaites qu'elles ne le sont. Pour la Russie, la particularité, c'est que ces dénonciations vont durer quand même environ 50 ans.
C'est pas mal. Plus. Hein.
Qu'elles vont concerner des millions de contributions. Et la question essentielle, c'est que si 10 000 dénonciations en France, on peut arriver quelque part à en donner une analyse aujourd'hui scientifique, si pour la Stasi, les historiens allemands ont beaucoup avancé sur leur lecture réelle de ce qui s'est passé, sur la Russie, vous ne pouvez rien faire parce que c'est intraitable. Autrement dit, les systèmes politiques, soit de l'époque tsariste, puis des époques qui vont lui succéder, jusqu'en 1917 en tout cas, vont essayer de mettre des bureaux d'études chargés de mettre en place des commissions d'examen, des contributions arrivées spontanément vers le pouvoir. À partir de 1917, il y a un moment tout à fait exceptionnel, c'est la révolution de février, où tous ces organismes sont dissous. Mais une des premières tentatives de Dzerzhinsky, c'est de remettre en place des commissions qui vont prendre de l'importance et essayer, localement, généralement, plus que nationalement, de faire une étude de ce qui remonte. Particularité qui est quand même très intéressante de dire qu'en 1932, comme je l'ai dit tout à l'heure, Staline se désintéresse de ces remontées, de ces dénonciations spontanées qui lui arrivent. Il procède de trois façons qui me paraissent caractéristiques. La première, c'est de dire il n'y a pas 5% des dénonciations qui sont intéressantes.
Ça fait peu, effectivement.
Et la phrase est prononcée par Staline en personne. Mais 5%, ça suffit pour faire peur. Ça suffit pour maintenir, quelque part, une psychose collective. La deuxième particularité, c'est que sur ces dénonciations, à peine sans doute 1% est traité par les services. Autrement dit, dans ce qui sera la grande vague des purges, les dénonciations auront un rôle quasi anecdotique. Et la troisième remarque, c'est qu'en 1932, on demande à Staline des moyens humains pour être plus performant dans l'analyse de ses contributions, Staline refuse. Mais ce qu'on lui demandait, c'était tout simplement 15 postes supplémentaires pour un service d'analyse des dénonciations. Donc on voit bien quelque part que les dénonciations que nous présentons comme l'horreur des horreurs, comme, je veux dire, des contributions qui sont, je veux dire, éthiquement inacceptables, fonctionnaient différemment de ce que l'on peut penser dans le cadre des sociétés qui sont les nôtres, occidentales en tout cas.
Certes, mais entre la réaction de Staline et la participation du peuple à ces dénonciations, moi je me pose la question, pourquoi un Russe dénonce-t-il son voisin, son père, son frère, sa mère, ses enfants
même mais ça, c'est l'angle vu par l'angle occidental. Certes. Bien sûr, il y a eu des dénonciations parce que votre Marie vous trompait. Bien sûr, il y a des dénonciations parce qu'on voulait récupérer l'appartement ou la chambre, tout simplement, du voisin. Sur ces éléments-là, bien entendu, ont parfaitement fonctionné. Mais quand on fait une analyse dans les archives, comme l'a fait François-Xavier Nérard, en particulier dans les archives un peu plus ouvertes que les autres de Nijni Novgorod, on s'aperçoit que la majorité des dénonciations, elles sont adressées à Staline directement ou vers les pouvoirs locaux supérieurs, elle dénonce en fait les chefs hiérarchiques supérieurs. C'est ça sur lequel portent essentiellement les dénonciations. C'est la façon dont, ouvrière d'usine, on n'a pas accès à un salaire. C'est que, kolkhozienne, on n'a pas les moyens de vivre.
Donc c'est plutôt des revendications.
Autrement dit, ce qui se passe, et ce qui doit être bien compris pour comprendre ce qu'a été ce système en Russie, c'est en fait le seul moyen que la population avait de s'exprimer, alors que tous les autres organes, quelque part, de contestation ont été éliminés. Et on voit bien là-dessus quelque chose qui est absolument fascinant à l'étude. Un étudiant va écrire qu'il n'a pas les moyens de vivre. et qu'il en appelle à Staline pour qu'une bourse complémentaire lui soit acceptée. Et cette bourse lui a été refusée par les présidents d'universités locaux. On voit apparaître donc à travers ces lettres, en fait, tout ce que la société donne en dysfonctionnement. Tout ce qu'elle donne en incapacité de se réformer. Et c'est une douleur qu'expriment principalement les dénonciations plutôt qu'une volonté de vengeance. Et ça explique aussi pourquoi la délation Staline s'en désintéresse. C'est qu'elle lui fait remonter, un peu à la manière d'un sondage, une image réelle de ce qui se passe et sur lequel rien n'est fait.
Il y a une image qu'il ne veut pas voir.
Bien sûr. C'est le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans les coins les plus reculés de la Russie, ce qui se passe dans Moscou, ce qui se passe à l'échelon, je veux dire, de l'ensemble de la société russe dont on prétend qu'elle fonctionne et qu'elle va fonctionner de mieux en mieux. Donc il y a ce paradoxe que Staline demande des dénonciations, les fait publier dans la presse, c'est une avalanche. Elle ne tourne jamais à la limite que les subalternes, que les chefs intermédiaires, qui généralement s'en tirent, on ne peut plus mieux, parce qu'ils ont eu le temps de réagir, parce que ce que l'on reproche en matière, j'allais dire, de corruption est moindre, et qu'en fait, attaquer le système, c'est aussi quelque part le déstabiliser. Donc, la dénonciation en russe, dans le contexte russe, qui ne ressemble à aucun des autres contextes que j'ai racontés tout à l'heure, elle est cette image d'une société qui veut tout savoir, mais qui ne peut rien réparer, qui ne peut rien raccommoder. Et je crois que c'est pour ça qu'elle va progressivement tomber en désuétude. Le pouvoir a éliminé toutes les forces de contestation. Et une fois qu'il a une lecture très juste du système dans lequel il enferme la population, et ce système ne lui servant à rien, il est maintenu seulement dans une psychose de peur.
Alors, puisque vous avez à côté de vous le livre de Nérard, ce serait peut-être le moment que vous nous lisiez une courte lettre pour nous donner un peu le ton de ces...
Oui, on peut donner toute une série de lettres. Puisqu'on est à l'université, j'avais choisi une lettre très particulière, parce que c'est la lettre d'un étudiant. Il s'adresse donc, à la limite, comme un étudiant d'une université occidentale s'adresserait à son président, à M. Roller, en tout cas ici à l'USTL. « Vu la situation matérielle, cher chef, cher camarade Staline, vu la situation extrêmement difficile de ma famille, j'ai été contraint de vous écrire la lettre suivante. » J'ai été contraint.
Curieux.
Je m'arrête un peu sur ma biographie. Je suis étudiant à l'école de la jeunesse kolkhozienne du territoire de Gorki. Je suis un enfant rural du Kolkhoz Victoire. Ma mère travaillait auparavant comme ouvrière agricole. Et donc vous avez ici toute une série de données qui sont généralement non anonymes. Et c'est là aussi où cette délation russe fonctionne sur des codes qui ne sont pas les codes qui sont les nôtres. On fait confiance au système. Elle s'est mariée avec mon père, qui était âgé de 50 ans. Elle n'a pu l'épouser que parce qu'il était un paysan moyen. Elle avait 19 ans, elle avait une mauvaise vie. Vous voyez, à travers tout ça...
Toute l'analyse de la société.
Ce que je disais tout à l'heure, cette lecture de cette société qui vit la collectivisation, qui vit sur des rythmes de famine régulière. Ma mère m'a envoyé à l'école à 7 verses du village, cette fois 1,5 km. Je rentrais à midi. J'étais meilleur que les autres, mais je n'ai étudié à l'école que pendant 3 ans. Oui. J'avance dans la lettre, mais je crois que lorsque vous lisez ces lettres, c'est quelque chose d'extraordinairement humain que vous traversez. Elle s'est adressée au comité exécutif communal pour obtenir une aide et me permettre de continuer et de me nourrir. Mais comme elle était peu alphabétisée, on lui a donné un simple travail forestier. Elle était membre du parti, elle a travaillé au district, elle a participé à de nombreux congrès. Mais elle a été en 1930 limogée parce qu'elle avait dit deux de ses chefs qu'ils étaient alcooliques et acceptaient des pots de vin.
Oui, il est assez clair. Oui.
Je prends cette lettre-là parce que il y en a des tas d'autres.
Bien sûr.
J'en ai une dans ma famille tout à fait particulière où ma belle-mère écrit à Staline, elle lui commence sa lettre en lui disant « Je suis donneuse de sang depuis 20 ans. Mon fils a été arrêté à 14 ans, mis dans un institut de redressement, condamné pour avoir tué quelques oiseaux lance-pierre et condamné à 5 ans de camp de redressement. Je suis allé lui rendre visite, j'ai vu les conditions épouvantables dans lesquelles l'enfant était installé et je vous demande de faire en sorte que le traitement soit amélioré. » Et curieusement, et je me regrette toujours de ne pas avoir gardé la réponse, les lettres sont tirées au sort.
Parce qu'il y a eu une réponse.
Et elle reçoit une lettre de Staline, en tout cas signée de la signature de Staline. Et avec cette lettre, elle va chercher l'enfant dans l'institut de redressement. Tout le monde se met au garde à vous, l'enfant lui est rendu.
Ah oui, donc,
autrement dit, ça passait dans la presse. Il fallait aussi continuer à faire croire au pouvoir divin.
Et là, ça marche, effectivement.
Mais c'est tout cet arbitraire que la Russie a vécu pendant ces 50 ans, où c'est une lettre tirée au hasard qui fait que peut-être elle va aboutir, mais qui maintient une croyance, finalement, dans ce pouvoir divin qui ressemble étrangement à ce pouvoir que les tsars s'appropriaient.
Et on boucle la boucle et on revient à la question du début, d'ailleurs, sur l'histoire. Alors, pour terminer, juste une question logique sur la suite de l'histoire. Les années 30, la guerre, et puis le KGB, et puis aujourd'hui le FSB. Il y a une lignée, bien évidemment, qu'on peut, nous, en Occident, imaginer. Juste en une minute, est-ce que c'est vrai ?
Parler de la Russie, en particulier de la Russie contemporaine, c'est toujours très très compliqué, si vous voulez, parce qu'elle est faite évidemment d'invariants et de variants. Il est bien évident qu'il y a une ligne continue. On sait que, par exemple, les dénonciations étaient très nombreuses pendant la guerre. Beaucoup plus nombreuses, à la limite, que dans les années 39-40.
Et chez nous, par rapport à maintenant, dans la Russie d'aujourd'hui.
La question aujourd'hui est que probablement le besoin n'est plus le même, que l'illusion qu'est le système de ce qu'il est, l'illusion de progrès qu'il donne,
l'illusion de liberté,
qu'il veut donner, en tout cas, les dénonciations, la corruption, elle est dénoncée, je veux dire, aujourd'hui quotidiennement, comme elle l'était pour d'autres raisons à l'époque de Staline. De là à dire que si vous dénoncez un médecin aujourd'hui, ça change grand-chose à son sort. Non, la corruption médicale est totale. Je veux dire, c'est aggravé probablement, même par rapport aux époques précédentes. Donc, le FSB ne joue plus ce rôle-là.
Il en joue un autre rôle. Mmh, tout à fait.
Il est sur des positions administratives. Beaucoup d'agents du KGB sont entrés dans le monde économique.
Tout à fait, c'est des magnats de l'industrie aujourd'hui.
Je crois qu'il faut donc toujours penser que les dénonciations, et je crois que je vais essayer de vous l'expliquer tout à l'heure, n'ont servi à rien, puisqu'elles n'étaient pas destinées à corriger le système. Elles étaient destinées à lui faire peur. Aujourd'hui, la peur n'est plus la même. Il est évident que donc les fonctions de ceux d'observation ne sont plus les mêmes. Cela dit, très profondément, on croit encore que le pouvoir suprême, chez Poutine par exemple, ou chez Medvedev, est la référence contre tous les abus. Et c'est curieux que ce système-là, invariant, continue finalement à fonctionner dans les têtes.
Ben alors moi je crois que finalement on fera une prochaine émission, peut-être que sur le FSB, parce que le sujet est tout trouvé, et puis ce sera la suite de cette émission sur la délation plutôt historique. Bernard Joliot, merci. Donc peut-être un conseil de lecture pour terminer, le livre de Néra.
Oui, on peut lire. Alors, sur l'aspect scientifique, évidemment, pour prendre connaissance davantage de lettres que le petit extrait que je vous en ai lu, eh bien, c'est de lire 5% de vérité, reprend la situation, bien entendu, la citation de Staline. C'est un livre qui est paru chez Taillandier en 2004. François-Xavier Nérard, qui en est l'auteur, a travaillé pendant 5 ans au Collège universitaire français de Moscou. C'est probablement le seul ouvrage, un peu daté déjà, mais véritablement qui travaille en profondeur cette question-là.
Bon, eh bien, c'est parfait. Je pense que
c'est un gain de temps, parce que la dénonciation est dans tous les livres, mais elle n'est nulle part.
Oui, effectivement. Donc, le Nérard, c'est parfait.